Chapitre 4. En rentrant chez elle, Agatha trouva Bill Wong qui l'attendait. « Ça fait des heures que je poirote !» se plaignit-il, assis dans la cuisine avec un chat autour du cou et l'autre sur ses genoux. Heureusement, le chauffage s'était remis en marche, constata Agatha. Après avoir expliqué qu'elle s'était rendue au commissariat et pourquoi, elle demanda « Quel bon vent vous amène? D'autres questions à me poser ?»« Non, rien de nouveau sur votre dernière trouvaille. Par contre, j'ai du nouveau sur Paul Finlay. » « Quoi donc ? Il a été marié, jusqu'il y a 2 ans de ça. Sa femme a demandé le divorce pour violence conjugale. Elle a obtenu la garde de leurs 2 enfants. Violence psychologique ou physique ? Les deux. Me voilà dans de beaux draps !» s'exclama Agatha en prenant son visage dans ses mains. « Vous êtes dans de beaux draps, vous ? Et Tony, alors, il faut la prévenir ? Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. J'ai fait une bêtise. Encore ? Ce n'est pas drôle. » Le jeune Simon Black qui travaillait pour moi, en pinçait pour Tony. Elle est trop jeune pour se marier, Bill. Et vous ne vouliez pas perdre une bonne enquêtrice, ajouta le jeune policier avec cynisme. J'ai dit à Simon d'attendre 3 ans. Je lui ai promis qu'après, je ne me mettrais plus en travers de son chemin. Il s'est engagé dans l'armée et maintenant, il est en Afghanistan. Agatha, est-ce que vous êtes sûre que ce n'est pas par jalousie envers Tony que vous mijotez ces horribles manigances? Non, non, je tiens à elle. Il y avait quelque chose d'instable chez Simon. Alors on n'a plus qu'à espérer qu'il ne meure pas en héros. Bien, racontez-moi les dernières nouvelles. Agatha consulta sa montre. J'ai l'intention de rendre visite à Amy Richards ce soir. Il vaut mieux que j'y aille. Je veux lui faire croire que je pars en Floride, puis j'agirai dans l'ombre. Elle vous verra fureter. Je me déguiserai, mais d'abord, il faut que je jette un coup d'œil à son mari. Qu'est-ce qu'on fait pour Tony? Je vais aller la voir dès maintenant, j'ai ma soirée. Ne lui parlez pas de Simon. Non. Ça, c'est à vous de le faire. Paul Finlay monta l'escalier menant à l'appartement de Tony avec impatience. Le fait qu'elle l'ait invité à dîner pour lui annoncer quelque chose d'important, avait-elle dit, était pour le moins de bon augure. Tony était tout ce qu'il désirait. Jeune, jolie et sans aucun doute malléable. Une épouse se devait de soutenir son mari en toutes circonstances et d'être toujours d'accord avec lui. Il n'était encore jamais allé chez elle et s'attendait à y trouver des poupées sur le canapé et des posters de groupes pop sur les murs. Mais bien que le logement fût petit, il était meublé avec un goût excellent. Des étagères remplies de livres de tout format contre un mur, 2 reproductions encadrées sur le mur opposé, un Paul Klee et un paysage des Cotswolds par un artiste qu'il ne reconnut pas. Une table ronde près de la fenêtre. « Bonjour Paul, » fit Tony avec une certaine nervosité. Tu veux boire un verre avant de manger?
Qu'est-ce que tu me proposes?
Bière ou vin?
Du vin, ce sera très bien. Voyons qu'est-ce que nous avons là?
Demanda-t-il en lui prenant la bouteille des mains.
Ma pauvre petite du merlot de Blockley!
Blockley était un village situé près de Morton-in-Marsh. C'est une entreprise locale qui l'importe et le met en bouteille. Tu es déjà allé à l'épicerie de Blockley? C'est extraordinaire, tous les produits qu'ils ont. Charles dit que ce vin est très bon.
« Je m'en tiendrai à la bière », déclara Paul sur un ton désagréable.
Tony haussa les épaules, ouvrit une bouteille de bière et lui en servit un verre. Elle portait un jean coupé et un t-shirt délavé.
« Je croyais que c'était une grande occasion ce soir », remarqua-t-il en jaugeant sa tenue.
« Oui, mais plutôt triste. Assieds-toi. »
Paul s'installa sur le canapé et tapota la place à côté de la sienne. Mais Tony s'assit sur une chaise en face de lui. Depuis l'assassinat, elle n'était ressortie avec lui qu'à 2 reprises. À chaque fois, il lui avait fait la leçon sur les dangers de son travail, quand il ne pérorait pas sur l'importance du sien. Elle se demandait ce qu'elle avait bien pu lui trouver. Peut-être un psychiatre aurait-il répondu qu'elle cherchait un père de substitution?
Alors voilà, Paul, se lança-t-elle. Je suis dévouée à mon travail et je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un.
Tu veux dire que tu me largues, moi? S'écria Paul, les traits déformés par la rage.
C'est une façon très crue de dire les choses. Tout ce que j'essaye de t'expliquer, enfin, c'est juste qu'on n'est pas bien assorti.
Les petites filles comme toi ont besoin d'une bonne fessée.
Avant que Tony ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, Paul l'avait déjà tiré brusquement de sa chaise, plaqué sur ses genoux et s'était mise à la fessée. Elle glissa son bras entre leur corps, attrapa ses testicules, les serra le plus fort possible. Il la repoussa en hurlant et se roula par terre. À cet instant, la porte s'ouvrit fort opportunément et Bill Wong entra dans la pièce. « Que s'est-il passé » demanda-t-il en aidant Tony à se relever. « Il t'a agressé ?
Il m'a donné la fessée parce que je lui ai annoncé que je ne voulais plus le voir. » Bill remit Paul, qui se contorsionnait toujours à terre, sur ses pieds et lui passa les menottes avant de lui rappeler ses droits et de l'inculper pour agression.
« C'est elle qui m'a agressé !»
hurla l'agresseur. « Oh, on n'a qu'à laisser tomber !» suggéra Tony. Bill la regarda. « Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, et il recommencera. Son ex-femme a divorcé pour violence physique et psychologique. Une fois, il lui a cassé les côtes, une autre la mâchoire. Tu connais le refrain, Tony ?»«
Ok. Emmène-le, et qu'on n'en parle plus. » »«
Et toi, ça va aller? Il y a quelqu'un que tu peux appeler ?»«
Non, ça va aller maintenant. »
Au même moment, Agatha annonçait à Amy Richards qu'elle partait pour la Floride. « Votre mari n'est pas là ?» demanda-t-elle.
« Il devrait rentrer d'un moment à l'autre, » répondit Amy avec nervosité.
« Vous avez l'air tendu.
Je n'arrête pas de me demander si la personne qui a tué Gary ne va pas s'en prendre à moi. »«
Seulement si elle croit que vous savez quelque chose. »
La sonnette retentit. « Ça doit être mon petit Banshee !»
s'écria Amy en se levant d'un bond. « Il n'a pas la clé ?» commença Agatha.
Mais la porte du séjour s'ouvrit et Amy rentra dans la pièce, suivie d'un homme petit et trapu, coûteusement vêtu d'un costume en laine peigné gris. Il avait des cheveux châtains, gras, un visage rubicon et une longue bouche de clown.
« Voilà, c'est mon petit Banshee !» lança Amy. « Bon voyage à vous, tenez-moi au courant !»«
Si je pouvais juste échanger un mot avec votre mari, s'il vous plaît.
Oh, ce n'est pas le moment, mon pauvre Banshee est très fatigué !»
Sans autre forme de procès, Agatha se retrouva poussée vers la sortie.
« Tout ça est bien étrange, » confia-t-elle à la haie de Troen devant la maison. Elle s'installa au volant de sa voiture et alla se garer un peu plus loin dans la rue, à un endroit d'où elle avait une bonne vue sur l'entrée de la maison, éclairée par un réverbère. Il faisait un froid de canard, mais elle n'avait pas envie d'allumer le moteur.
« Je me demande si ce Banshee est vraiment son mari, » pensa-t-elle. Il n'avait pas la clé de la maison. Au bout d'une heure, la porte d'entrée s'ouvrit pour laisser apparaître Banshee. Il s'engouffra dans une BMW noire et s'en alla. Elle le prit en filature. Après avoir traversé Mercer, il se dirigea vers l'extrémité nord de la ville où se trouvaient de grands pavillons construits à l'écart de la rue. Agatha descendit de voiture pour le suivre lentement à pied. Il remonta l'allée de l'une des maisons, sortit un trousseau de clés, ouvrit la porte. On entendit un enfant crier d'une voix aiguë
« Maman, papa est rentré !»
Alors là, songea Agatha en retournant à sa voiture, deux solutions. Soit Amy tapine, soit ce cher Banshee est bigame. Si j'apprends ça à Bill, il fera surveiller la maison, puis convoquera Amy pour un interrogatoire. Or, Amy me paye et j'ai besoin de cet argent. Si je la démasque, il me passe sous le nez. Mais si je garde un œil sur elle, je vais peut-être trouver un lien avec l'assassinat de son ex-mari. Le projet d'Agatha, consistant à faire semblant de partir pour la Floride, alors qu'elle resterait pour surveiller la maison de sa cliente, sous un travestissement quelconque, faillit tomber à l'eau quand elle reçut, le lendemain matin, un courrier lui annonçant qu'elle avait été nominée pour le prix de femme de l'année de Mercer. Elle rougit de plaisir. Il fallait qu'elle maigrisse, qu'elle réserve une série de liftings non chirurgicaux. Mais en lisant l'invitation avec plus d'attention, elle se rendit compte que la remise du prix n'aurait pas lieu avant juin. En général, les nominés pour le titre de femme de l'année étaient annoncés l'année précédente. Il semblait qu'on les choisît au dernier moment. Il fallait qu'elle découvre le nom de ses concurrentes. Mais en attendant, elle devait se remettre au boulot. Déguisée de pied en cap, Agatha se rendit à Mercer et chercha sur la liste électorale l'adresse où elle avait suivi l'homme qui était sorti de chez Amy. À sa stupéfaction, le nom correspondant était celui de Mr. T. Richards. L'homme semblait donc bien bigame. Mais elle ne pouvait pas l'affronter. Elle avait téléphoné à Amy tout à l'heure qu'elle était sur le point de s'envoler pour Miami. Elle appela Bill sur son portable. Une voix ensommeillée lui répondit avec mauvaise humeur.
« Vous m'avez réveillée !»«
Il est 10 heures du matin !»
protesta Agatha en consultant sa montre. « Et j'ai travaillé toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce que je peux passer chez vous ? J'ai une information importante. »«
D'accord.
Je vous préviens, je suis déguisée. »
Un quart d'heure plus tard, Mrs. Wong ouvrait la porte à une femme à l'épaisse chevelure noire et aux joues rebondies, enveloppée dans plusieurs couches de vêtements et portant de grosses lunettes.
« On n'achète rien !»
lança Mrs. Wong. La porte commença à se refermer. À cet instant, Bill apparut derrière sa mère en pyjama et robe de chambre.
« C'est bon, maman, je sais qui c'est. C'est vous, n'est-ce pas ?»«
Oui. Entrez. » Mrs. Wong se retira non sans maugréer contre les gens qui empêchaient son fils de dormir. Bill introduisit sa visiteuse dans le séjour. « Vous êtes bien déguisée, Agatha. Allez, videz votre sac, je suis épuisée, alors j'espère que cette info vaut le coup. » Agatha lui raconta ce qu'elle avait découvert au sujet de Richard. Bill l'écouta éberlué. Comment a-t-il pu s'imaginer qu'il allait s'en tirer comme ça, en pleine enquête sur un assassinat? Beau boulot, on va le convoquer. Et vous me tiendrez au courant de tout ce que vous trouverez? Demanda fébrilement Agatha. Vous avez ma parole. Est-ce que Tony vous a raconté que j'avais arrêté Paul Finlay? Non, elle ne m'a rien dit du tout. Que s'est-il passé? Bill lui résuma les événements. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Se demanda tout haut Agatha. Elle trouve peut-être que vous vous intéressez trop à sa vie privée. Agatha pensa sombrement à Simon en Afghanistan et rougit. Bill la contempla avec stupéfaction. Il ne se souvenait pas de l'avoir déjà vue rougir. Deux semaines plus tard, Agatha en avait assez des Pierre Richards et Amy de conduire déguisés pour aller attendre des heures d'affilée devant leurs maisons respectives. Tom Richards passait la plupart de ses soirées et de ses nuits chez Amy et seulement deux avec ses enfants. C'est donc avec soulagement qu'elle salua Bill Wong qui l'attendait devant chez elle à la fin de ce qui lui paraissait une très longue attente. « Entrez !» s'exclama-t-elle. « Et je vous en supplie, dites-moi que je peux me débarrasser de ce déguisement. La perruque est trop lourde et avec ses rembourrages dans les joues, j'ai l'impression d'être un écureuil. » « On a aussi l'impression que vous avez bu quand vous parlez avec, » ajouta Bill en la suivant dans la cuisine. « Préparez-moi une tasse de café, je vous raconterai tout. » Agatha brancha la cafetière, après avoir arraché sa perruque, et extirpé les rembourrages de sa bouche. « J'ai hâte !» lança-t-elle par-dessus son épaule. « Allez-y, parlez !» Tom Richards a divorcé de sa femme à l'amiable, il y a un an. Il a épousé Amy 6 mois plus tard. Elle le suppliait de lui offrir un relooking, un lifting et tout le tralala, alors il l'a envoyée à Los Angeles. Elle n'a jamais mis les pieds en Floride. On lui a demandé pourquoi elle avait inventé cette histoire à dormir debout avec Art McKenzie. Apparemment, elle est un peu affabulatrice, et c'était l'intrigue d'une série télé qu'elle a vue là-bas. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait menti, elle a répondu que si elle avait dit qu'elle avait demandé au pauvre Bunchy de dépenser tant d'argent pour sa chirurgie esthétique, elle aurait paru cupide et vaniteuse. Merci. Bill prit le mug de café qu'Agatha lui tendait avant de poursuivre. Richards confirme sa version, et enfin, oui, c'est lui qui a tout payé. Agatha s'assit à côté de son amie une tasse de café au creux des mains. Un des chats, Hodge, grimpa sur les genoux du jeune inspecteur, tandis que l'autre, Boswell, essayait de se coucher sur sa tête. Il les déposa tous les deux par terre avec douceur. « Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, » commenta Agatha. « Vous ne lui avez pas dit que j'avais vendu la mèche ?»« Non, on lui a dit qu'on avait vérifié son statut matrimonial et que le FBI de Floride n'avait trouvé aucune trace d'un Art McKenzie, et elle a tout déballé. » « Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, » répéta Agatha en allumant une cigarette. « Écoutez, s'il y a une chose à laquelle je crois dans tout ce qu'Amy m'a dit, c'est que Beach la maltraitait. Elle m'a confié que son père la battait, qu'elle aimait les hommes dominateurs. Est-ce que le lifting était vraiment une idée à elle ou est-ce Richards qui l'a contrainte et manipulée? Est-ce qu'il a essayé de pousser son ex-femme à se faire faire un lifting aussi? Ensuite, il y a l'argent du divorce avec Beach. » À ce qu'elle dit, il lui a versé une somme généreuse. Est-ce qu'il l'a payée en liquide? J'aimerais m'entretenir avec l'ancienne Mrs. Richards. Tout ça est un peu tiré par les cheveux, Agatha. Après tout, Richards n'a peut-être l'air de rien, mais cet homme est très très riche. Et les hommes riches n'ont en général pas trop de mal à trouver de jolis brins de filles pour se pendre à leurs bras. Pig! Pig! S'écria Agatha. Vous m'insultez? « Non, non, je pense à ce pig machin chose. »« Oh, Pygmalion, celui-là même. »« Non, vous vous emportez un peu, là. Richards a l'air complètement gaga d'Amy. »« Mais elle m'a montré une photo d'elle avant le lifting. Elle n'était même pas jolie. »« À votre place, je mettrai un peu la pédale douce. Je ne veux pas que vous débarquiez avec vos gros sabots alors que nous sommes en pleine enquête. »« Amy me paye pour découvrir l'assassin de Gary Beach, » se hérissa Agatha. « Et j'ai besoin de cet argent. » L'argent, voilà du concret. Apparemment, Beach l'a généreusement payé pour qu'elle lui accorde le divorce. Où est-ce qu'un petit flic de campagne trouve assez d'argent pour pouvoir se montrer généreux avec qui que ce soit? On étudie la question. Il n'y avait que quelques centaines de livres sur son compte en banque, mais Alice Peterson m'a fait remarquer, quand nous avons inspecté sa maison, qu'elle contenait des meubles anciens de valeur. Nous sommes remontés jusqu'à l'antiquaire. Oui, Gary lui a acheté plusieurs antiquités de prix qu'il a payées cash. Il se faisait donc des à-côtés. Peut-être qu'il passait son temps à inculper les gens pour ceci ou cela, et qu'ensuite il demandait des pots de vin. Je ne crois pas, non. Il adorait traîner ses victimes au tribunal. Juste après le départ de Bill, Tony arriva chez Agatha. « J'ai à vous parler, Mrs. Raisin, » annonça-t-elle. « Entrez ?» dit Agatha. « Qu'est-ce qui se passe ?» Tony marcha droit jusqu'à la cuisine d'un pas furieux et lança un faire-part de mariage sur la table.
« Voilà ce qui se passe, espèce de vieille fouineuse !»
Agatha lut l'invitation. Le caporal Simon Black allait épouser le sergent Suzanne Crispin en l'abbaye de Mercer le 10 juin. « Et alors ?» demanda Agatha.
« Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, hein ?»«
Cette lettre est arrivée en même temps que le faire-part, » répondit Tony en lui tendant un courrier par avion.
« Cher Tony, » lut Agatha, « j'aimerais que tu assistes à mon mariage parce que je garde un souvenir ému de la période où nous avons travaillé ensemble. À l'époque, j'aurais voulu t'épouser, mais Agatha m'a dit que tu étais trop jeune. Elle m'a demandé de m'éloigner et de réfléchir pendant 3 ans. Je ne supportais pas de continuer à te snober et de te voir souffrir. » Alors, je me suis engagée dans l'armée. Heureusement, j'ai rencontré Sue, elle est vraiment faite pour moi. Alors peut-être que c'était Agatha qui avait raison tout du long de ne pas me faire confiance. Bise, Simon.
À cause de vous, il pourrait sauter sur une bombe en Afghanistan. J'ai 18 ans, je ne suis pas une gamine, ne vous mêlez plus de ma vie privée. Oh, et je vous donne mon préavis de départ pour dans 1 mois.
La jeune femme sortit comme un ouragan, tandis qu'Agatha s'écroulait sur une chaise.
« Il y a quelqu'un ?»
fit la voix de Charles. « Oh, entre, et ne te gêne pas pour remuer le couteau dans la plaie !» gémit Agatha avant d'éclater en sanglots. Charles attendit qu'elle ait fini de pleurer pour dire avec douceur.
« J'ai vu Tony partir en voiture comme une dératée. Elle a découvert la vérité au sujet de Simon. »
Agatha renifla misérablement. « Elle a oublié ça !» fit-elle en poussant vers Charles le faire-part et la lettre. Le baronnet les lut avec attention.
Je vois.
Et elle m'a donné son préavis de départ.
Tu n'aurais pas dû te mêler de sa vie.
Je sais, mais ce n'était pas seulement par égoïsme. Ce n'était pas seulement parce que je ne voulais pas perdre une bonne détective. Il y avait quelque chose d'instable chez Simon, je le sentais.
Tu aurais dû la laisser s'en apercevoir par elle-même.
Et Paul Finlay, alors? Si je n'avais pas découvert par l'intermédiaire de Bill qu'il avait battu sa femme, et si Bill n'était pas passé chez elle, elle n'aurait pas échappé à une raclée.
Elle n'a pas essayé de se défendre?
Si, reconnut Agatha. Elle l'a attrapé par les couilles.
Tony n'a besoin de personne pour se défendre. Elle prend les cours de judo depuis un moment. À mon avis, c'est Paul qui doit une fière chandelle à Bill pour être arrivé juste à temps.
Et la fois où ce sale type l'a emmené à Paris, alors? Qui l'a sorti de ce pétrin? C'est Bibi! Voilà qui! Elle va continuer à tomber dans les bras d'un minable après l'autre.
Comme toi, Guy.
Qu'est-ce que tu racontes?
Ton premier ex-mari était un ivrogne. Ton deuxième ex-mari, un célibataire endurci et sans cœur. Puis tu as failli épouser un type qui voulait tout régenter. Et là, c'est moi qui ai dû voler à ton secours.
Ce n'est pas pareil?
Si. Oh, et puis ne nous disputons pas. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour garder Tony?
Je vais essayer de lui confier les affaires les plus intéressantes et rien d'autre, et me faire toute petite.
Le lendemain, à l'agence, Agatha salua jovialement ses employés comme si de rien n'était.
« Tony, dit-elle, je veux que vous transfériez toutes vos enquêtes en cours à Patrick et à Phil. J'en ai une grosse à vous confier. Laissez-moi vous résumer l'affaire. »
Ils l'écoutèrent tous avidement, puis elle ajouta. Tony, vous irez voir la première Mrs. Richards. Essayez de savoir si Richards a voulu qu'elle se fasse faire un lifting. J'étudie la possibilité que ce soit un homme méchant et manipulateur.
Tenez-moi l'adresse, répondit Tony.
Agatha la lui tendit.
Je vais taper à l'ordinateur ce que je viens de vous raconter pour que vous puissiez vous y référer à tout moment. Patrick, si vous avez un peu de temps aujourd'hui, vous vous mettrez en rapport avec vos anciens contacts dans la police pour savoir s'ils ont une idée de la façon dont Beach pouvait se faire des à-côtés.
Tony rassembla ses affaires et quitta l'agence sous le regard mélancolique de sa patronne. Tony roula jusqu'au pavillon des Richards. Elle ne ressentait plus rien. Elle chassa de son esprit le souvenir de toutes les occasions où Agatha était venue à son secours, en commençant par la fois où elle l'avait sauvée des mains de son frère alcoolique, avant de lui trouver un appartement et un travail. La maison des Richards était une imposante villa protégée de la route par une épaisse haie d'épineux et un mur en pierre sèche. Elle ouvrit le portail, puis remonta une courte allée gravillonnée menant à l'entrée. Ce fut une femme qui lui ouvrit la porte, une femme assez âgée, vêtue d'un tablier à fleurs démodées. « Mrs. Richards ?» demanda Tony. « Non, moi c'est la femme de ménage, Mrs. Richards est sortie. »
« Est-ce que vous savez quand elle va rentrer ?»«
Vers l'heure où les enfants reviennent de l'école. »
« Est-ce qu'il y a un endroit à Mercer où je peux la trouver ?»«
Peut-être au nouveau resto diététique pour le déjeuner. »« C'est n'importe quoi, si vous voulez mon avis. Payez une fortune pour qu'on vous serve une feuille de laitue. »
Tony la remercia et s'en alla. Elle savait où se trouvait ce restaurant. Un vent frisquet soufflait du nord-est, et des nuages menaçants laissaient présager de la neige. «
Tu parles d'une journée pour manger de la nourriture pour lapin, » songea-t-elle.
Une soupe et une tourte au steak et au rognon seraient plus indiquées. Son estomac gargouilla. L'annonce du mariage de Simon l'avait tellement contrariée qu'elle s'était contentée d'une tasse de café au petit déjeuner. Elle se gara sur la place principale, puis, courbant la tête pour se protéger du vent de plus en plus fort, marcha avec précaution dans la gadoue qui était en train de geler jusqu'à Barry Wind, où se trouvait le nouveau restaurant diététique, tout en maudissant la météo qui semblait prendre un plaisir pervers à faire alterner gel et dégel. Le resto s'appelait The Green Happiness. À travers les baies vitrées embuées, Tony ne pouvait pas voir l'intérieur. Elle entra donc. Les clients étaient très peu nombreux. Les habitants de Mercer avaient une préférence pour le cholestérol, et pas qu'un peu. Une serveuse maussade, au visage boursouflé d'acné, se dirigea vers Tony, qui avait pris une table dans un coin de la salle face à la porte. Après un coup d'œil à la carte, Tony commanda une soupe de légumes, puis un gratin de chou-fleur, accompagné d'un verre de jus de sureau. À son grand soulagement, la soupe était servie avec des petits pains et du beurre. Elle regarda autour d'elle. Deux femmes, plutôt âgées, étaient assises près de la baie vitrée. Le seul autre client était un homme d'allure sévère, portant lunettes et longue barbe. Juste au moment où Tony terminait son repas par une tasse de café de pissenlit, la porte s'ouvrit sur une grande femme vêtue dans un pseudo-style campagnard. Un imperméable barbour par-dessus un pull en cachemire et une culotte courte en velours côtelé, d'épaisses chaussettes en laine et de grosses chaussures de marche. Son visage, long et doux, rappela à Tony la face d'un mouton. Ses bagues, nombreuses, scintillaient dans la lumière. Elle appela la serveuse pour passer commande, de la voix de quelqu'un qui essaie désespérément de parler avec distinction sans y arriver. Les autres clients étaient partis. Il ne restait plus que Tony et la femme qu'elle espérait être Mrs. Richard. Comme la nouvelle venue souriait vaguement dans sa direction, Tony saisit hardiment l'occasion pour se lever et la rejoindre.
« J'ai l'impression de vous connaître. Vous êtes Mrs. Richard ?»«
Je l'étais. » « Si vous êtes journaliste, c'est l'épouse actuelle que vous cherchez. »
Une petite coupe à dessert, contenant une salade essentiellement composée de germes de soja, fut placée devant Mrs. Richards.
« Je ne suis pas journaliste, » répondit Tony. « Excusez-moi, mais c'est tout ce que vous allez manger par ce froid glacial ?»«
Oui, mon ex-mari dit que je dois surveiller ma ligne. »«
En quoi est-ce que ça le regarde? Ce n'est plus votre mari ?»
Mais c'est le père de mes enfants et je dépends de lui pour ma pension alimentaire. Laissez-moi maintenant.
Je suis détective, expliqua Tony en donnant sa carte à l'ex-Mrs. Richards. Notre agence est censée travailler pour l'actuelle Mrs. Richards, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre chez elle.
Rien de plus bizarre que chez la pétasse de base.
Si nous en parlions autour d'un déjeuner.
Je suis en train de déjeuner.
Non. Vous êtes en train de vous punir. Vous êtes assez mince comme ça. Laissez tomber la nourriture pour lapin. Venez avec moi au pub le plus proche. Nous mangerons de la tourte au steak et au rognon, accompagnée d'une bonne bouteille de vin.
Et s'il l'apprend ? S'inquiéta Mrs. Richards, en jouant avec sa salade du bout de sa fourchette, la mine lugubre.
Je ne lui dirai pas, et vous non plus.
Écoutez, je pense que vous avez traversé pas mal d'épreuves et que personne ne vous écoute jamais. Mais moi, je suis là. Allez, profitez un peu de la vie.
Autour d'une tourte au steak et au rognon et d'une bonne bouteille de Merlot, Mrs. Richards se dégela, contrairement à la température extérieure. Pendant qu'elle mangeait avec appétit, Tony tint des propos généraux sur la météo et lui raconta plusieurs anecdotes amusantes survenues quand elle recherchait des animaux perdus.
Un jour, on m'a cherché de retrouver un chat qui s'appelait Napoléon. J'ai fini par le localiser dans les branches d'un grand marronnier du jardin de sa maîtresse. Alors j'ai grimpé à l'arbre.
C'était difficile, parce qu'il y avait beaucoup de vent et que le chat était presque à la cime. Et juste au moment où j'allais l'attraper, le satané matou est redescendu par terre presto en sautant de branche en branche. Je l'ai suivi, je l'ai pourchassé, et j'ai fini par l'attraper en le plaquant au sol.
« On ne peut pas plaquer un chat !» objecta Mrs. Richards avec un petit rire de jeune fille.
« Aussi on peut. Que diriez-vous d'un cognac avec le café ?»«
Je ne devrais peut-être pas. »
Tony haussa la voix pour commander deux cognacs. « Est-ce que vous connaissiez Amy, l'actuelle Mrs. Richards ?»«
Oh oui. Écoutez, appelez-moi Fiona. On travaillait dans le même supermarché. Elle était à la caisse, moi je remplissais les rayons. »«
C'est un poste qui semble plutôt subalterne pour vous. Et vos enfants, qui s'en occupaient ?»«
Nous avons une excellente nounou pour les deux plus jeunes. Carole, 4 ans, et Josie, 5. Mon aîné, Wolfgang, est au collège de Merceuster. Il a 13 ans. »«
Wolfgang ?» C'est un drôle de nom pour un petit anglais.
Le père de Tom est allemand. Il a insisté pour qu'on appelle notre fils comme lui. À l'école, on l'appelle Wolf, alors ça ne le dérange pas.
Mon mari pensait que je devais comprendre le fonctionnement de son empire de la base au sommet. Ça ne m'ennuyait pas de remplir les rayons. C'était un travail tranquille, bête.
J'ai fait connaissance avec Amy. Les autres employés savaient que j'étais la femme du patron et pensaient que j'étais là pour les espionner. Mais Amy bavardait volontiers avec moi. Un après-midi, je l'ai invité à prendre le thé. Nous avions le même jour de congé. Je croyais que Tom était en voyage d'affaires, mais il a débarqué à la maison. Il a interrogé Amy pour savoir à combien elle estimait le montant des ventes et quels étaient les articles les plus populaires. Ils n'ont pas tardé à être complètement absorbés par leur conversation et à oublier mon existence. Quelques semaines plus tard, Tom m'a demandé de divorcer. Au début, j'étais anéantie. Mais quand il m'a expliqué qu'il me paierait une pension... L'idée que je pouvais plaquer mon boulot et rester à la maison avec les enfants m'est tout à coup apparue comme un bon moyen de sortir du cauchemar.
Ça alors? Vous avez un don pour écouter les gens. Je ne devrais pas critiquer Tom. Je me demandais juste, intervint Tony avec précaution, si votre mari vous avait déjà suggéré d'améliorer votre apparence.
Jour et nuit, répondit Fiona Richards d'un air sombre. Il voulait que j'aille me faire faire un lifting à Los Angeles. Il choisissait toujours mes vêtements, mais là c'était trop. J'ai essayé d'en rire, j'ai dit que je voulais devenir une vieille femme élégante et il m'a frappée.
Vous n'êtes pas allé porter plainte?
Il aura engagé les meilleurs avocats. Je me disais que je n'avais aucune chance. Alors j'ai acheté un magnétophone pour enregistrer toutes nos violentes disputes et le bruit des coups qu'il me donnait. Mon modeste salaire était versé sur un compte à mon nom. Je suis allée à la banque, j'ai loué un petit coffre et j'y ai déposé des copies de tous les enregistrements. Ensuite, j'ai annoncé à mon mari que j'allais trouver la police avec toutes les preuves. Il est sorti de chez nous comme un ouragan, mais à son retour, il m'a dit qu'il était tombé amoureux d'Amy et qu'il allait m'accorder le divorce. C'est seulement quand il a eu fini de déménager que j'ai pu croire à ma chance. Il revient régulièrement voir les enfants. Oh, il est correct avec eux. Je suis tombée sur Amy avant ses transformations esthétiques. Elle a été très gentille. Mais en me quittant, elle a dit quelque chose de bizarre. Elle a dit « Gary me manque. Gary lui aurait réglé son compte. »
On dirait donc qu'elle s'était lassée de son nouveau mari avant même de partir pour les États-Unis, commenta Tony.
Bien. Comment est-ce que je suis censée rentrer chez moi? J'ai trop bu pour conduire.
Je vais vous appeler un taxi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir récupérer votre voiture?
La nounou, Mrs. Rufus?
Fiona Richards se pencha en avant et regarda Tony d'un air sérieux.
Vous pensez que Tom a tué Gary?
Si Gary était mort d'un coup sur la tête, je pourrais le croire, mais tuer un homme à coups de couteau, manifestement, puis le décapiter et essayer de le faire rôtir comme un cochon, non. Je pense que c'est l'œuvre de plusieurs personnes.
Vous voulez bien que nous restions en contact? Demanda Fiona d'un ton plaintif. Vous savez si bien écouter. Oh, si j'avais une fille comme vous, enfin.
L'ex-épouse de Tom Richards se mit debout, quelque peu chancelante. Tony lui trouva un taxi pour la ramener chez elle. Agatha jura dans sa barbe. Le rapport de Tony sur Fiona Richards était excellent. Grâce à son jeune âge et à son air innocent, son employé arrivait à extirper des confessions à des personnes qui se seraient refermées comme des huîtres face à Agatha. Après avoir laissé un mot sur le bureau de Tony pour la remercier de son travail, ainsi que la lettre et le faire-part de mariage de Simon, Agatha sortit dans le froid glacial. Le moment était venu de demander à Amy Richards pourquoi elle avait menti. Pour cela, il allait falloir avouer qu'elle n'était jamais partie en Floride. Amy ouvrit la porte. Sans ses lentilles de contact, on voyait que ses yeux étaient marrons. On aurait dit qu'elle avait pleuré.
« Ah, c'est vous !» fit-elle d'un air morne.
« Laissez-moi entrer !» la pria Agatha en frissonnant. Elle se fraya un passage entre l'encadrement de la porte et la fine silhouette d'Amy, puis entra dans le séjour. Tout en maudissant tout bas les militants anti-fourrures, elle enleva son gros manteau et son châle, qui lui donnaient l'impression d'être une paysanne irlandaise. Les visons d'Amérique étaient des animaux nuisibles. Ils auraient dû la protéger du froid, au lieu d'errer dans la campagne et d'éliminer la faune locale.
« Amy, je ne suis pas allée en Floride », annonça-t-elle.
Elle s'assit sur un canapé, tandis qu'Amy s'installait dans le fauteuil face à elle. Une table basse en verre les séparait, sur laquelle étaient posés des magazines sur papier glacé. OK, Celebrity, Vogue, et les suppléments en couleur de différents journaux du dimanche.
« Pourquoi ?» demanda Amy d'une voix rauque.
« Désolée de vous dire ça, mais je ne vous ai pas cru. » Un contact que j'ai dans la police m'a informé que vous aviez avoué avoir menti, que vous n'êtes jamais allé en Floride et que c'est Tom Richards qui a financé votre voyage à Los Angeles pour vos diverses opérations. Alors bien sûr, je me suis demandé si vous ne vouliez pas vous débarrasser de moi et pourquoi.
Cette fois, j'ai dit la vérité à la police. Je ne voulais pas qu'ils me prennent pour une croqueuse de diamants. C'est vrai, ça coûte une fortune d'avoir la tête que j'ai aujourd'hui.
Dolly Parton n'avait-elle pas dit un jour « ça coûte une fortune d'avoir l'air aussi vulgaire ?» se demanda Agatha. Il y avait en effet quelque chose de plutôt vulgaire chez Amy aujourd'hui. Elle portait des chaussures roses, à talons hauts, un pull rose moulant et un pantalon corsaire tout aussi rose.
« Alors ce n'est pas votre mari qui vous a suggéré de vous faire faire de la chirurgie esthétique ?»«
Non, bien sûr que non !»
Mais il l'a suggéré à son épouse précédente.
« Est-ce un homme brutal ?»
« Oh non, mon petit Bunchy est le plus doux des hommes, c'est un amour !»
Soit. Revenons à Gary. Vous avez dit qu'il vous avait donné beaucoup d'argent pour divorcer. Par chèque ?
Non ? En liquide ?
Combien ?
Je ne me souviens plus.
Amy !
Environ 10 000 livres, dans une enveloppe. Il a dit « Prends ça et viens avec moi chez l'avocat, mais pas un mot de l'argent. Dis-lui que tu ne veux rien de moi, pigé ? Alors j'ai joué le jeu. »
Mais vous aviez bien votre propre avocat.
Il y en avait un dans le même bâtiment.
Comment s'appellent ces avocats?
Crumley, Fatch et Blender.
Et où sont-ils?
Dans la zone industrielle, sur la parcelle 31.
C'est un sacrément drôle d'emplacement pour un cabinet d'avocats. Mais vous avez bien fourni votre acte de divorce quand vous êtes allé faire enregistrer votre mariage avec Tom Richards.
C'est ça qui est bizarre. Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Quand j'ai demandé à Gary, il m'a dit qu'il me l'avait donné, que je l'avais certainement perdu. Comme mon passeport était toujours à mon nom de jeune fille, Bunchy a dit qu'avec mon acte de naissance, ça suffirait.
Vous n'êtes pas allé demander une copie à l'avocat?
Bunchy a dit que ce n'était pas la peine de s'embêter avec ça.
D'où est-ce que Gary a sorti les 10 000 livres qu'il vous a donnés? Il avait un coffre-fort?
Pas du tout. Il a juste sorti une enveloppe. Il a dit qu'il voulait avoir la maison pour lui tout seul.
Et où est-ce que Bunchy vous a rencontré en vrai?
Au supermarché.
Je savais que l'argent ne me durerait pas très longtemps par les temps qui courent. J'ai pris une chambre à l'auberge de jeunesse.
Amy, réfléchissez bien. Le salaire de flic de Gary n'était pas bien gros. Comment pouvait-il gagner de l'argent en plus?
Je sais pas. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il faisait beaucoup d'heures sup.
Amy agita son bras fin et un gros bracelet en argent d'où pendaient plusieurs petits objets brilla dans la lumière électrique.
Tiens, ça c'est bizarre. Est-ce que je peux voir votre bracelet? Demanda Agatha.
Bien sûr, je l'ai fait fabriquer par une amie. Elle est super habile de ses mains. Elle utilise toutes sortes de petits machins en argent.
Agatha examina le bracelet avec attention en le retournant dans ses mains.
Il y a une clé là, fit-elle remarquer.
Une clé d'une forme étrange. Elle ressemble à celle de mon coffre de banque.
Ça alors?
À quelle banque Gary avait-il son compte?
À la Mercer & General, je crois.
Est-ce qu'il a fait un testament?
Oui, j'en ai une copie quelque part. C'est un de ces testaments qu'on fait soi-même. Il m'a tout laissé, mais sous mon nom de jeune fille. Amy Tubb, il disait qu'il l'avait rédigé juste avant notre mariage.
Et votre passeport est toujours à votre nom de jeune fille?
Oui, je n'ai jamais trouvé le temps de le faire modifier.
Bon, prenez votre manteau, on va commencer par la banque. Apportez le testament, l'acte de décès et votre passeport. Agatha attendit avec impatience, tandis qu'Amy allait et venait en chancelant sur ses hauts talons, ouvrant et fermant des tiroirs, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un dossier contenant tous les documents dans le tiroir du bas du bureau de son mari.